Belgique, 13 mars 84, Père Philippe, Saint-Joseph. Éthique.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Donne-nous l'Esprit Saint, Père des pauvres. D'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire.
Priez-vous.
Saint-Jean.
Priez-vous.
L'adoration vécue dans toute sa force n'est-elle pas le lieu de ce que l'on appelle la mystique naturelle? Je ne crois pas. Parce que la mystique naturelle existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Alors, il faut lire là les écrits d'Olivier Lacombe, c'est du reste intéressant. Pas toujours très clair, mais c'est intéressant, parce que c'est Plotin. Olivier Lacombe fait toute une étude sur Plotin pour savoir si, au fond, il y a eu expérience. Vous voyez, c'est là la différence. C'est que l'adoration n'est pas au sens strict une expérience. La mystique, c'est toujours à partir d'une expérience, affective. Alors, il y a une mystique du Saint-Esprit, et cette mystique du Saint-Esprit, nous essaierons de voir, comment le philosophe peut parler, au point de vue éthique chrétienne, d'une liberté nouvelle. Alors, ce serait très intéressant. J'ai terminé hier comme ça le cours à l'ULSH, de faire la comparaison entre la liberté de Socrate qui boit la ciguë et la liberté du Christ crucifié. Je crois qu'il y aurait là quelque chose de très intéressant à voir. Je ne crois pas que ça a été fait, du reste. On a fait de Socrate à Jésus, du Père Demant, ce qui est quelque chose d'intéressant d'une certaine manière, mais il ne parle pas de cette manière-là. Quel est le moment où Jésus a vécu la plus grande liberté ? À la croix. Donc, au point de vue éthique chrétienne, le philosophe a le droit de regarder Jésus comme homme. Et j'ai le droit de regarder Socrate. Et j'ai le droit de regarder qu'il y a deux nœuds, deux moments très importants au point de vue éthique religieuse et éthique chrétienne. L'éthique religieuse, Socrate vit une éthique religieuse, ça on ne peut pas nier. Et cette éthique religieuse, on y reviendra du reste à Socrate, au point de vue éthique religieuse, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et quelqu'un comme Merleau-Ponty vivait de ce que représentait Socrate. Et dans son discours au Collège de France, quand il a été nommé, il y avait eu à ce moment-là toute une querelle très forte, en disant on ne va pas quand même nommer au Collège de France un athée. Parce qu'il se disait athée, bien que quand il était anormal, il faisait partie des talents. Et donc, il était chrétien. Il y a eu des histoires, c'est très difficile de savoir exactement pourquoi il a quitté sa religion catholique. Est-ce que c'est à cause de son mariage? Je crois que sa femme était protestante, un peu indifférente. Voudrait-il qu'il a fait profession d'athéisme à un moment donné? Alors, au moment où il était nommé au Collège de France, comme il y avait eu beaucoup de questions autour de ça, il a fait une petite plaquette de discours, le discours qu'il a donné, du reste, qui est apparu en plaquette, sur son athéisme, pour montrer que son athéisme n'était pas la négation de l'absolu. Il dit, on a traité Socrate d'athée. Et au fond, c'était sous-jacent, vous me traitez d'athée, mais attention. Alors évidemment, ce n'est pas un modèle pour nous, Merleau-Ponty, au point de vue. J'aime mieux regarder Socrate, parce que Socrate, ça monte, tandis que Merleau-Ponty, ça descend. Il faut toujours être très attentif à ça, tu vois, à la montée, à la descente, c'est-à-dire la disposition, et quand la forme substantielle est présente, si on la met entre parenthèses, c'est la descente. Autrement dit, on pouvait dire certaines choses avant le Christ, il y a des choses qu'on ne peut plus dire après le Christ. On ne peut pas être un Socrate après le Christ. Tandis qu'on peut être un Socrate avant le Christ. Alors, vouloir imiter Socrate, ayant été chrétien, non. Ça sonne un peu fêlé. On est quelque chose qui ne va pas. Tandis que, avant, oui, c'est très beau. Je comprends comment tous les stoïciens mettent toujours Socrate en modèle de ce que représente la morale religieuse. Et dans la morale religieuse, il y a la liberté de Socrate. Et puis dans la morale chrétienne, dans l'éthique chrétienne, vu d'un point de vue purement philosophique, hein, parce que je peux le regarder, il y a une liberté de cet homme qu'on appelle Jésus qui meurt volontairement et librement, par amour pour son Père et par amour pour les hommes. Alors ce serait intéressant de voir les deux, vous voyez, parce que ce seraient deux types de liberté très très différents et qui seraient intéressants à préciser justement et à bien regarder. Parce que comme nos contemporains sont très sensibilisés à la liberté, c'est peut-être par là qu'on doit leur faire comprendre certaines choses. Et on peut, alors c'est là où vient une philosophie chrétienne, je crois que le seul lieu de la philosophie chrétienne, au sens fort, c'est l'éthique, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est au niveau éthique qu'il y a une philosophie chrétienne, il y a une éthique chrétienne. Et en éthique chrétienne, on doit pouvoir montrer philosophiquement parlant la grandeur de Jésus. Ce n'est pas de l'apologétique, c'est de la philosophie, où je lis l'évangile dans une lumière philosophique. On peut le faire, hein, comme on peut lire tout l'Ancien Testament dans une lumière philosophique. C'est très beau. Alors, ce serait la liberté de l'homme religieux. Avec un tout petit peu plus, parce qu'il y a la foi. La liberté d'un Abraham qui offre son fils Isaac, ce serait un autre point de vue. Socrate, Abraham, hein, et puis Jésus. Et c'est vrai, la liberté, et la liberté d'Abraham est entre les deux. Elle n'est pas uniquement religieuse, puisqu'il y a la foi. Socrate, vous allez me dire, il y a la foi aussi, la foi dans ses voies intérieures. Oui, mais ces voies intérieures, c'est un aspect religieux. Ce n'est pas une révélation au sens absolu. Donc c'est beaucoup plus une espèce de conscience très aiguë, un impératif catégorique, très aigu qui le relie à Dieu. Alors voyez, la question posée est intéressante. Elle est intéressante parce que il faut toucher à cela. Y a-t-il une mystique naturelle ? Autrement dit, après l'éthique religieuse, pouvons-nous poser la question d'une mystique naturelle ? Y a-t-il une mystique naturelle dans l'Inde, par exemple ? Y a-t-il une mystique naturelle chez Plotin ? Ça a été très étudié dans ces dernières années. Regardez Olivier Lacombe. C'est sûrement les études qui ont été le plus poussées dans ce domaine-là. Et c'est intéressant, c'est important de voir ça, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'atteint la mystique naturelle? Qu'est-ce qu'atteint la mystique? La mystique tout court, chrétienne. Qu'est-ce qu'elle atteint? C'est une expérience d'amour. Et tandis qu'on ne peut pas dire dans l'adoration, je mets l'accent sur l'expérience, puisque je sais en adorant que je n'ai pas d'expérience de Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas m'arrêter à l'adoration. L'adoration, c'est un acte. Un acte, c'est un passage. Je ne m'y arrête pas. Je multiplie mes actes d'adoration, mais je ne m'y arrête pas. Tandis que la tentation dans la mystique naturelle, c'est de s'y arrêter. Oui, c'est ce que Plotin appelle le silence. L'énosis, l'union avec Dieu et le silence. Sigé, qui dépasse tout acte, toute opération, toute contemplation, et qui est comme une espèce de nirvana, si vous voulez, une remise très profonde de tout notre être vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu qui est là, présent et qui nous reçoit. Alors là, on peut parler de mystique naturelle et se demander quel est le contenu de cette expérience. Parce que tout est là. Quel est le contenu de cette expérience? Je veux préciser. Et ça, c'est une très, très grosse question. Très, très grosse question. Je suis beaucoup intéressé à ça pendant un moment. Dès qu'on enseigne Plotin, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ça. Et c'est Plotin, je crois, le philosophe qui est le lieu par excellence de ce que peut représenter une mystique naturelle. Alors, voir dans Plotin ce qu'il peut y avoir d'esthétique. Parce que ce qui est très difficile dans la mystique naturelle, c'est de voir la possibilité, c'est de voir le point de vue esthétique. On peut faire cette expérience, il ne faut pas la chercher, hein, mais on peut faire cette expérience de comprendre qu'à force de volonté et d'assaise, on arrive à une purification du corps qui fait qu'on a l'impression, je dis bien l'impression, de toucher Dieu. Comme une espèce d'extase qui serait mise en notre pouvoir. On touche un seuil. Mais on sent que c'est d'ordre esthétique, d'ordre, si vous voulez, ascétique. L'ascèse est très proche de l'esthétique. Hein. C'est bien évident. L'ascèse est volontaire. Et elle nous donne un visage particulier. Un visage ascétique, intérieurement. Et alors à ce moment-là, on a cette possibilité de pouvoir, par sa volonté, entrer dans une certaine extase. À ce moment-là, on sent très bien qu'on pourrait, volontairement, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ? On sent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'entrer dans cette espèce d'ascèse intérieure par où nous pourrions un peu quitter notre corps, vous voyez, être un peu libérés du corps. Je crois que dans toute mystique naturelle, il y a cette tentation. C'est quitter son corps, volontairement et ascétiquement. Et de pouvoir par là entrer en contact avec Dieu. Ça, c'est une vie, c'est à base d'ascèse, de volonté. On peut y arriver, il suffit d'avoir un peu de volonté. Et on sent très bien. Durant le carême, par exemple, on fait des ascèses particulièrement fortes. Alors, arrivé à un moment donné, on sent très bien, on touche un seuil. Il ne faut pas le chercher, hein. On se touche un seuil sans qu'on pouvait verser d'un côté ou de l'autre. Et le démon, puisqu'il est toujours là quand on fait de la sèse, hein, le démon tentant, on a faim, le démon veut nous entraîner. Et à ce moment-là, on pourrait se laisser prendre par une espèce d'orgueil. D'orgueil très bien coloré. Hein. Un orgueil coloré de mystique, d'oraison. L'oraison, ce n'est pas l'oraison du tout. C'est tout simplement notre effort personnel, notre volonté personnelle qui nous fait entrer imaginativement dans ce domaine qui est au-delà du sensible, au-delà, qui est intermédiaire et qui n'est pas du divin, qui est du spirituel, n'est pas du divin. Le spirituel n'est pas divin, il ne faut pas oublier. Il y a un domaine spirituel, le domaine de l'art, et cet art très intérieur de l'ascèse, auquel on peut accéder. Il suffit d'avoir tout simplement un peu de volonté et un peu de désir d'être un être spirituel. On a le désir d'être un être spirituel. On a le désir humain d'être un contemplatif. On veut à tout prix entrer dans la contemplation. On veut à tout prix, c'est la seule chose intéressante dans ma vie. Or, puisque le Saint-Esprit ne me veut pas y entrer, moi j'y entrerai de mes propres forces. Hein. Puis on verra bien. Alors, on peut très bien. Alors, on y entre volontairement à ce moment-là, vous voyez. C'est notre volonté qui entre. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut toucher le point de vue de la mystique naturelle. Et la mystique naturelle, alors, à ce moment-là, nous fait entrer dans ce domaine qui n'est pas divin. Ce n'est pas le domaine du divin, c'est un domaine spirituel. C'est pour ça que l'ange se voile en ce moment-là dans un ange qui serait le spirituel. On entrerait dans un domaine qui n'est ni le domaine humain, ni le domaine divin, et qui est un domaine intermédiaire. C'est ça que j'appelle, au fond, ce domaine de mystique naturelle où l'on aurait l'expérience du plus profond de notre âme. Soi-disant, parce que ce n'est pas le plus profond de notre âme. On croirait avoir l'expérience du plus profond de notre âme. Et c'est imaginatif. Oui, oui, un peu de ça, sûrement. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de pouvoir entrer là, parce que c'est pas très difficile de voir ce qui reste encore volontaire, artistique, spirituel, et puis le démon peut entrer. Il peut y avoir un orgueil énorme. Le démon peut entrer. Il peut y avoir le souffle du démon. Alors, c'est le discernement qu'on doit faire. Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors là, l'image de la connaissance, c'est divin. C'est la mystique chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a ? Maître Eckhart. Oh, Maître Eckhart, c'est pas le zen. Non, non, je crois que Maître Eckhart, il exprime sa contemplation comme il le peut. Je ne le défends pas parce qu'il est dominicain, mais je le défends. il y a un fruit de Maître Eckhart, vous savez. Alors là, on joue à son fruit. Il y a une espèce de... Moi, je crois que toute contemplation authentique, vous met dans les dimensions de Dieu. Et donc, il y a un regard de l'air. Tandis que dans le zen, il n'y a plus le regard de l'aigle. Il y a une petite peau hein, qui fait qu'on se replie sur nous. Vous savez, c'est au fond ce que le Père de Haut disait toujours, et je crois que ça revient à cela. Distinguer le ronronnement du chat auprès du feu et le vol de l'aigle. Le ronronnement du chat auprès du feu, c'est quand même le retour sur soi. Et là, ça ne nous agrandit pas. Et je crois que ça, c'est la très grosse différence, voyez. Je crois qu'il y a un fruit de toute contemplation mystique authentique. Il y a un fruit. Alors, c'est très difficile, hein, je suis d'accord que c'est très difficile, mais je ne mettrai pas du tout... Je dirais qu'il y a une mystique à la manière de Maître Eckhart, et qui est une mystique plus intellectuelle. Il y a une mystique plus affective. Mais je crois qu'à l'intérieur de la mystique chrétienne, il y a deux aspects, plus de lumière et plus d'amour. Mais elle reste authentiquement chrétienne, mais elle s'exprime mal. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas vécu l'expérience de Maître Eckhart le prennent de l'extérieur. C'est toujours très dangereux les écrits des mystiques. Parce que je peux très bien faire de Saint-Jean de la Croix aussi. Vous voyez, quelque chose qui tombe dans... Vous voyez, et on comprend très bien que l'Église demande la prudence. Parce que si vous prenez les écrits des mystiques sans avoir eu l'expérience, vous vous mettez à les imiter. Et là, vous tombez dans le panneau et vous tombez dans une espèce de mystique naturelle, artistique et spirituelle. Et vous n'êtes plus dans cette attitude de pauvreté que donne toute véritable mystique, qui est une attitude de réceptivité à la grâce de Dieu et laisser l'Esprit Saint passer toujours devant. C'est ça le critère de la mystique chrétienne. C'est si l'Esprit Saint passe devant. Et que vous êtes, vous, dans cette attitude de petitesse de laisser l'Esprit Saint passer devant. Alors, si vous laissez l'Esprit Saint passer devant, il y a le don d'intelligence. Et le don d'intelligence fait partie de la mystique. Et il y a le don de sagesse. Je dirais, Maître Eckhart, c'est le don d'intelligence. Il y a une espèce de grandeur dans Maître Eckhart qui est extraordinaire. C'est pour ça que je dirais, et je crois que c'est ça. Alors qu'il y a des éléments intellectuels dedans, Saint-Esprit n'est pas contre. Qu'il y ait des éléments plus affectifs, le Saint-Esprit n'est pas contre. Mais dans la mystique naturelle, il y a l'aspect artistique qui est premier. Ça me semble. Ah oui, alors là, je m'entraîne là-dedans. C'est une mystique religieuse, je crois, à base religieuse. Alors ça, on pourra regarder, si on peut voir, est-ce qu'il y a une certaine mystique religieuse. Oui. Je vous dirais Plotin, Maître Eckhart, Saint-Jean de la Croix. Vous voyez, je ne dis pas du tout que c'est la même chose, hein. Vous voyez bien. Je mets Plotin parce que Plotin est avant la révélation chrétienne. Bon, on retrouverait dans le monde Israël, dans le monde juif, dans le monde musulman, il y a un courant mystique. Du mystique, alors, dans Israël, qui est religieuse, mais quand même à base de foi. Dans la mystique musulmane, elle est religieuse. C'est l'adoration. On est autour de l'adoration. Mais justement, c'est assez particulier. Elle est religieuse. Et puis, on verrait pour le Zen, par exemple. Alors, ça, c'est l'aspect beaucoup plus construit. Oui, où la méthode passe avant. Et alors, quand la méthode passe avant, c'est l'aspect artistique. Vous employez exactement la méthode, vous dites ça doit aboutir au bout. Non, pas du tout. Comme des artistes qui disent, moi je suis la méthode exactement. J'oublie toujours son nom, mais un artiste comme ça à Paris qui est très extraordinaire, qui est d'origine espagnole. La méthode, il n'y a plus d'inspiration, ça n'existe plus. De sorte que tout le monde peut y arriver. En appliquant fidèlement la méthode. Tiens, ça me semble faux. Ça me semble tuer l'art. Il fait des choses qui sont... Alors, il y a la même chose au point de vue spirituel. Celui qui prend une méthode de Zen peut arriver, peut toujours arriver. Il pourrait arriver même avec des phénomènes assez extraordinaires. Son âme pourrait être comme éthérée, quitter son corps. En union avec telle ou telle chose. C'est possible, ça. Tout être spirituel peut arriver à ça au bout d'un certain temps. Et on sent très bien que c'est une tentation. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous chercheriez plus l'efficacité que l'amour. Parce que c'est là la tentation. Il y a une efficacité spirituelle. L'efficacité spirituelle sur des phénomènes extraordinaires, de lévitation. C'est évidemment l'oraison du matin, on verrait. Un frère se lever. C'est extraordinaire la condensation merveilleuse qu'il y a. Phénomène extraordinaire. Au bout de 6 mois d'exercice militaire, n'est-ce pas, de l'oraison du matin et d'une volonté extraordinaire, il arrive à une certaine lévitation. Alors le voisin a une feuille de papier. Bon, il y a une lévitation, alors il chronométrait un quart d'heure de lévitation. Extraordinaire. Il n'y aurait rien au point de vue divin. Il y aurait une lévitation. Peut-être qu'il y aurait du démoniaque. Parce que le démon aime bien l'efficacité, vous savez. Une efficacité spirituelle, il l'aime beaucoup. Tandis que l'amour, c'est intérieur. Et l'amour fait que le poids de notre corps suit encore la loi physique ordinaire. C'est extraordinaire. Et on peut aimer Dieu avec une très grande intensité et n'avoir aucun phénomène de lévitation, d'extase. Dieu vous laisse dans la pauvreté de la foi. Et on doit aimer ça. On doit aimer ça. On ne doit pas aimer les phénomènes extraordinaires. Non, non, c'est trop dangereux. Si Dieu vous les impose, demandez à la très sainte Vierge hein, ce qu'il faut faire. Mais autrement, on ne doit pas les aimer. On doit aimer de rester dans la foi toute pauvre et de gémir avec l'Esprit Saint, les gémissements de l'Esprit Saint. Avec les phénomènes extraordinaires, c'est. Vous voyez, la mystique naturelle, de ce qu'on appelle la mystique naturelle, aime ce genre de phénomène, qui sont des manifestations. Bon, je ne dis pas plus, hein, parce que c'est... Mais il faut le comprendre, hein, ça fait partie d'une recherche de théologie morale, de théologie religieuse. Y a-t-il une théologie naturelle ? Y a-t-il une mystique naturelle ? Moi, je dirais non. Tout court. Il y a une adoration, il n'y a pas de mystique naturelle. Il y a des phénomènes extraordinaires, mais il n'y a pas de mystique naturelle. Il y a une mystique divine. Mon père, vous écriviez en 1966, l'homme que l'adoration est une non-expérience en laquelle on s'efface. Est-ce à dire, oui, c'est ce que je viens de dire. Pour dire, ça reste la même chose, je n'ai pas lu avant, heureusement. Mais c'est vrai que la mystique naturelle implique une expérience, tandis que l'adoration n'est pas une expérience. Donc c'est une non-expérience, je suis d'accord. C'est une non-expérience. C'est une non-expérience en ce sens que c'est une volonté d'adorer. Alors, quand cette santé d'adoration devient une expérience, alors ça peut glisser dans un sens ou de l'autre. Est-ce à dire qu'une telle opération volontaire ne puisse se ranger parmi les expériences externes, en ce sens qu'elle n'implique pas de contact immédiat avec Dieu, c'est sûr. C'est pour ça que je ne peux pas commencer une philosophie par l'adoration. Pas. Parce que vous comprenez, pour que mon adoration prenne un caractère très très fort, il faut avoir découvert l'existence de l'être premier, du Créateur. Alors cette adoration, par la foi, par les traditions religieuses, prend un caractère très fort, ou par la métaphysique, la philosophie, par la sagesse, elle prend un caractère très fort, mais autrement elle ne l'a pas. Donc, est-ce à dire qu'une telle opération ne puisse se ranger parmi les expériences externes, en ce sens qu'elle n'implique pas de contact immédiat avec Dieu ? Je ne dis pas l'expérience externe, elle est une expérience interne. Quand j'adore Dieu, il y a une certaine expérience interne, j'adore Dieu. Cette expérience interne peut s'exprimer, je peux construire un autel. Et je peux prendre une position particulière, n'est-ce pas, de celui qui se prosterne et qui fait que les gens de l'extérieur disent « Oh, oh, ah, dangereux, dangereux, quelle situation, dans quelle communauté j'entre ?» Ils adorent tous d'une manière tout à fait particulière, n'est-ce pas ? Alors, je comprends très bien que de l'extérieur, ça peut donner cette impression, n'est-ce pas ? Donc, est-ce à dire qu'une telle opération ne puisse se ranger parmi les expériences externes en ce sens qu'elle n'implique pas de contact immédiat avec Dieu, comme dans le cas de l'ami ? Ou plutôt, qu'elle est expérience interne, voilà, d'un type particulier comme conséquence affective, d'une dépendance réelle dans l'ordre de l'être ? Expérience interne. Expérience de son néant, de son non-moi, il n'y a pas d'expérience du néant, vous ne savez rien. Je dirais plutôt l'expérience de la dépendance à l'égard d'un être suprême. Le décret du Concile Vatican II sur la liberté religieuse semble correspondre tout à fait à votre recherche présente sur l'éthique religieuse. Pourquoi ce texte parle de la nature de la personne humaine comme fondement du droit à la liberté religieuse ? Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objet formel d'un texte du magistère quand il regarde l'homme ? Oui, j'avais envie d'en venir à la fin parce que je crois qu'en effet, c'est que tous ceux qui se sont un petit peu révoltés contre ce point de vue de la liberté religieuse n'ont pas compris du tout. Parce que de fait, on ne parle jamais de l'éthique religieuse. On ne parle jamais de l'éthique religieuse. Alors subitement, ce texte vous tombe comme ça, on dit liberté religieuse, alors ça ne va plus du tout. Il aurait peut-être fallu, vous voyez, comme souvent, c'est le rôle du théologien, okay, c'est pas le rôle de l'Église. Le rôle du théologien, c'est d'expliquer qu'il existe une éthique religieuse. Bon, s'il existe une éthique religieuse, il existe une liberté religieuse. Et que cette liberté religieuse est quelque chose de très très important. Oui, c'est pour ça que je disais la mort de Socrate. La mort de Socrate a été, dans l'Antiquité, a été comme un modèle très très fort qui a animé énormément tout le stoïcisme. Et c'est beau du reste, c'est beau l'amour de Socrate, on ne peut pas nier, c'est grand. Demandez à votre professeur de philosophie grecque de vous faire quelques cours sur la mort de Socrate, en se servant des textes de l'apologie de Platon sur Socrate, parce que c'est des grands textes. Et puis de regarder chez les stoïciens, parce qu'il y a les deux aspects. Puis alors après, nous regardons la liberté du Christ crucifié. Et je crois qu'il faut le faire. Dans notre monde d'aujourd'hui, il serait très beau, ça. Vous voyez ? Et ça permettrait peut-être de mieux comprendre ce texte du Vatican II. Parce que ce texte du Vatican II, hein, on n'a pas le droit d'être contre. On peut le dire, je ne le comprends pas. Mais c'est un texte conciliaire. On n'a pas le droit d'être contre. On a le droit de ne pas le comprendre. Si on n'est pas assez théologien et pas assez philosophe. Si on veut être vraiment philosophe, on doit le comprendre. Et théologien aussi. Et on doit le situer. On doit essayer de comprendre ce que ça veut dire, exactement, cette liberté religieuse. Alors pourquoi ce texte parle de la nature de la personne humaine comme fondement du droit de la liberté religieuse ? Oui, parce que vous voyez, au point de vue philosophique, comprenez bien, la personne humaine finalisée est quand même le fondement de cette liberté religieuse. C'est l'homme dans sa personne qui est fondement de ce que représente cette liberté religieuse. Une fois que je comprends cette liberté religieuse, je peux parler du droit à la liberté religieuse. En réalité, ce droit à la liberté religieuse, je ne le verrai pleinement que dans une attitude de sagesse. Nous pourrons dire un mot après, si vous voulez. Alors, je vais simplement, vous voyez donc, c'est juste ça, mais il faudra y revenir, hein, à ce texte de Vatican II. C'est pas mauvais peut-être d'y revenir dans cette perspective de l'éthique religieuse. Je continue cette petite enquête que nous faisons. La naissance de cette dimension nouvelle que l'homme connaît en adorant. Par l'adoration qui est un acte libre, l'homme reconnaît amoureusement, l'homme reconnaît qu'il est dépendant totalement à l'égard du Dieu créateur, il reconnaît cette dépendance et il l'aime. C'est ça l'adoration. C'est un acte libre et volontaire. Ce n'est pas une expérience. Ce serait une expérience si je pouvais atteindre directement Dieu. Or, je n'atteins pas directement Dieu. Le Dieu créateur est un Dieu caché. Si c'est un Dieu caché, il est au-delà de mon expérience. Mais je peux l'atteindre par l'amour. Et je l'atteins par l'amour. Et je l'atteins dans l'amour. Mais je l'atteins en acceptant de ne rien connaître de lui et de reconnaître sa transcendance absolue par rapport à mon intelligence humaine. Je sais qu'il existe, je sais qu'il est présent, je sais qu'il est plus présent à moi que je ne suis présent à moi-même, et je l'adore. Je l'aime en adorant. Et c'est ma manière d'exprimer mon amour que de me remettre entièrement entre ses mains. Et j'accepte pleinement et totalement cet état dans lequel je me mets par l'adoration. C'est-à-dire, je me mets totalement relatif à lui, en reconnaissant ma totale dépendance dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de l'amour. Je reconnais que c'est lui qui me dit. Je reconnais que c'est lui qui est source de tout moi-même. Donc, dans cet acte, va naître une nouvelle dimension de la personne humaine, cette dimension religieuse. Vous voyez, cette dimension religieuse, avant l'acte d'adoration, est à l'état virtuel. C'est là la très grosse différence, et c'est ça qui est important à comprendre, que la dimension religieuse de l'homme est une dimension qui demande d'être actuée. C'est pour ça qu'elle peut disparaître. Quelqu'un qui n'a jamais adoré dans sa vie, parce qu'on ne lui a jamais parlé de Dieu. Je vous ai déjà dit, cette petite expérience que j'avais faite, c'était en Suisse, à Lesins, le lieu où il y avait c'est le lieu où avaient tous les grands malades. Alors j'allais souvent là quand j'avais un peu de temps, et j'avais rencontré une étudiante, c'était après la guerre, une étudiante belge qui m'avait dit de revenir la voir si je pouvais et si je repassais. Et alors, je repasse au même endroit, et puis je me tombe sur une autre étudiante, c'était plus elle. Je demande qui elle est. Alors, elle me dit qu'elle est citoyenne soviétique. Ça, vous comprenez que ça m'intéressait. Citoyenne soviétique. Je demande son âge, 20 ans. Je dis, qu'est-ce que vous avez ? Oui, j'ai fait mes études de politique, et puis j'étais emmené en camp de concentration. Les Allemands, j'ai échoué ici parce que je suis tombé malade entre deux. Donc elle avait été reçue parce que c'était l'aide suisse à tous les tuberculeux qui les envoyer à ce moment-là, là. Alors, on a parlé. J'étais en clergimat pour ne pas savoir qui j'étais. Mais elle m'a dit, je lui ai demandé si elle avait lu l'Évangile. Elle m'a dit non. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Elle m'a dit, je sens en moi que si je savais qui il était, je sens en moi une âme qui l'aimerait beaucoup. Il y a comme un appel. Un appel pour reconnaître ce qu'il est. C'est assez touchant, c'est beau. Alors je dis oui, alors à ce moment-là, se développerait en vous une attitude religieuse. Alors, elle a eu une attitude là d'opposition, en disant, ah non, je ne serai pas une religieuse. Alors j'ai dit, c'est pas ça, je lui ai dit, vous avez une attitude religieuse, à ce moment-là, vous découvririez que Jésus, il adore le Père, il adore notre Dieu. Et alors, elle a poursuivi son opposition vis-à-vis de la vie religieuse, en disant, les religieux, ils sont égoïstes. Alors à ce moment-là, j'ai découvert qui j'étais. J'ai dit, je suis religieux, moi. Vous voyez que je ne suis pas trop égoïste puisque je viens vous voir. Elle a dit, ah, oh, c'est différent. Chez nous, ils sont tous égoïstes. Tandis que vous êtes en dehors, c'est différent. Alors, vous n'êtes pas égoïste, je reconnais tout à fait, puisque vous venez me voir. Puis, on a poursuivi la chose, la conversation. Et elle avait un désir de connaître Jésus. Ça, c'est très net. Mystérieusement, très mystérieusement. Sans connaître très bien, mais j'ai essayé de lui faire comprendre qui était Jésus. Et se développer en elle, on sentait très bien. Une attitude religieuse. Le mot faisait horreur. Mais elle sentait ce besoin de découvrir un absolu. Alors, elle m'avait demandé de revenir la voir. Mais elle était fiancée à quelqu'un d'autre qui était là, qui était lui du côté des hommes, et qui était sûrement en opposition. Sauf qu'elle a dû raconter la visite comme ça de quelqu'un, et l'autre lui a dit, oh, la mois prochaine, tu refuseras. J'avais su ça, j'avais essayé de la rejoindre, mais puis elle est morte dans une opération qu'à ce moment-là, on faisait encore le thoraco très souvent. Et c'était une opération, ils avaient coupé les côtes. Et comme elle était très très fatiguée, elle est morte dans l'opération. Et j'ai trouvé ça très 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 extraordinaire. On ne lui avait jamais parlé de Dieu. Jamais parlé de Dieu. Mais elle sentait en elle un amour pour Jésus. Et elle sentait en elle comme un besoin de rechercher quelque chose de plus grand. Avait ce désir profond. Oui, je crois que c'est très significatif, ça. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Il ne peut pas y avoir en acte une attitude religieuse. L'appétit religieux demande en nous de s'expliciter en acte. Oui, c'est la différence avec, je ne sais pas quoi, le point de vue de notre intelligence, le point de vue de notre capacité d'aimer au point de vue humain, parce qu'il y a l'expérience là. C'est pour ça que quand je dis l'adoration n'est pas une expérience, ça va très loin, ça. C'est un acte volontaire. Il faut nous-mêmes actuer notre attitude religieuse. Tandis que dans une expérience, il n'y a pas l'attitude volontaire qui est première. J'ai l'expérience de l'amour d'amitié, j'ai l'expérience d'une attraction profonde de quelqu'un qui m'attire et je considère comme mon bien. j'ai une expérience d'une recherche intellectuelle, j'ai une expérience de ce que représente l'intelligence, le cogito. J'ai quand même une expérience de ça. Tandis qu'il n'y a pas d'expérience religieuse. C'est pour ça que ça peut s'éteindre, ça peut s'étouffer. On peut étouffer une attitude religieuse parce qu'elle demande de s'actuer. Elle demande de s'actuer volontairement. Et alors, c'est dans cette actuation de l'acte religieux de l'adoration que va naître progressivement la vertu de religion.
Seigneur, nous avons